Et si vous n'êtes pas dans mon cours, vous êtes bienvenue d'aller dans votre cours. Vous avez les notes sur les chaises. Je vous ai envoyé ça hier soir tôt. Bonjour Jérémy, tu peux venir prendre place. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière. On va laisser les corps endormis se réveiller puis se rendre jusqu'ici. C'est Jésus qui est ressuscité, on s'entend. Hein? Pas tout le monde. Éternel notre Dieu, je veux te remercier pour ce beau soleil de printemps, Seigneur. Merci surtout, Seigneur Jésus, d'avoir vaincu la mort. Merci Seigneur pour cette grâce de saisir ces choses et de trouver mon bonheur et ma joie en toi, ma paix en toi, Seigneur. Cette conviction, Seigneur, que j'ai que ton esprit habite en moi, qu'il fortifie mon âme, qui me rappelle sans cesse que je suis ton enfant, Père. Éternel notre Dieu, je veux te demander de bénir cette leçon sur l'Esprit Saint. J'étais vraiment émerveillé encore une fois de voir ton œuvre, ta grandeur au Esprit de Dieu et cette grâce magnifique qui nous est faite d'être le temple du Saint-Esprit, Seigneur. Je te demande de nous bénir ce matin, de parler à nos cœurs, de nous encourager, de nous fortifier, Seigneur. Viens aussi éclairer notre intelligence pour que nous saisissions ces choses. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Il y a probablement des éléments qui ne sont pas négligeables que je ne couvrirai pas dans la leçon. Parce qu'en me préparant, je devais vraiment sélectionner. Là, je ne pouvais pas tout couvrir. Il y aurait eu pas mal d'autres choses à mentionner. Je vais peut-être juste les mentionner vite lorsqu'on va les traverser. Alors c'est ça, ce matin on couvre la doctrine du Saint-Esprit. Et pas tellement dans le fait qu'il fait partie de la Trinité. On a déjà parlé de la Trinité, d'accord? On parle plutôt de son œuvre, de ce qu'il fait, plutôt que ce qu'il est comme personne. Une définition, l'œuvre du Saint-Esprit est de manifester la présence active de Dieu dans le monde et en particulier dans l'Église. Une des choses qui m'a frappé en relisant les notes de Grudem puis en préparant tout ça, c'est à quel point l'Esprit est à l'œuvre dans l'Ancien Testament aussi. Ça m'a frappé. Et donc, son œuvre n'est pas tellement différente, elle est juste plus glorieuse, plus puissante, plus majestueuse dans le Nouveau Testament. Alors, fondement scripturaire. Lorsqu'on avait vu la question de la Trinité, justement, comme je le mentionne, on avait déjà parlé de l'Esprit-Saint. Là, on va voir quelle est l'œuvre particulière de l'Esprit dans cette leçon-là, par comparaison avec l'œuvre, admettons, du Père et du Fils. Je pense que la définition de Grudem résume bien l'œuvre principale de l'Esprit, c'est de manifester la présence de Dieu de différentes manières. Ça peut être en nous donnant des dons spirituels, ça peut être par l'opération de miracles, mais c'est de manifester la présence de Dieu et certainement de soutenir, d'accord, de donner sa puissance pour le service, pour l'œuvre, que ce soit pour Christ, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a manifesté sa présence par des théophanies. Et là, ce n'était pas toujours l'Esprit-Saint qui était là. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament commence évidemment avec les Évangiles. La manifestation de la présence de Dieu, c'est Christ, d'abord et avant tout, comme jamais dans l'histoire. D'accord? Mais après l'ascension de Christ, essentiellement, c'est l'Esprit-Saint qui manifeste la présence de Dieu. C'est vraiment cette personne de la Trinité qui est là pour manifester la présence de Dieu. L'Ancien Testament avait annoncé que l'œuvre, la présence, les manifestations de l'Esprit allaient venir comme jamais auparavant, dans un temps futur. On lit cette prophétie dans Ésaïe 32, 14 à 18. Je vais juste vous lire le début, puis après ça, Ésaïe 44. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et donc, les prophètes annonçaient déjà qu'il allait venir un temps où l'Esprit viendrait d'une manière particulière. Tu as un commentaire, Camille? Juste le fond dans le micro, s'il te plaît.
L'histoire, l'ascension d'Élie, mais dans le fond, et Élisée qui demande, juste avant qu'il monte, « Donne-moi une double portion de ton esprit. » Et lorsqu'il monte, « Si tu me vois, tu vas voir ce que tu veux. » Puis effectivement, il y a une manifestation de l'Esprit-Saint dans Élisée qui est absolument comme qui n'est pas vue ailleurs. Là. C'est comme si c'était un type...
Ah, tu fais un parallèle avec l'ascension.
Oui, je fais un parallèle avec Christ qui dit « Je vais monter et ouais. Je vais vous envoyer mon esprit. » Puis c'est comme si c'était un type.
Oui, peut-être.
Je ne sais pas. Là,
c'est intéressant.
C'est un commentaire
intéressant,
comme ça.
Ce serait quelque chose à explorer. Merci. Ésaïe 44, 3, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et les ruisseaux de la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Donc, comme on va le voir au fur et à mesure de la leçon, l'Esprit était déjà présent au milieu d'Israël. D'accord? Si vous faites juste penser à l'Ancien Testament, je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup de passages qui vont vous venir vite, à moins que vous ayez lu régulièrement en profondeur l'Ancien Testament. Vous allez penser, évidemment, à l'Esprit qui vient sur les rois, tout ça, mais non, l'Esprit était beaucoup plus présent que ça, puis on va le voir ensemble. Mais en même temps, c'était annoncé dans les prophéties qu'il viendrait un jour où, comme jamais auparavant, l'Esprit va être sur le peuple. Sur le peuple de Dieu. Alors, quels sont les rôles de l'Esprit-Saint? Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, dans des proportions différentes. On va faire les nuances au fur et à mesure, mais quels sont les rôles de l'Esprit-Saint? L'Esprit-Saint, le Saint-Esprit fortifie. Mais il fortifie premièrement en donnant la vie. D'accord? Littéralement, la vie physique est liée à l'Esprit. On sait que les Écritures enseignent que c'est Dieu qui soutient toutes choses. Je ne pense pas qu'on l'ait mentionné lorsqu'on a survolé ces questions-là plus tôt. Là. Mais les Écritures nous enseignent que si Dieu cessait de soutenir, s'il arrêtait de soutenir, la vie arrêterait. D'accord? Mais c'est intéressant, on a des textes qui nous relient ça, qui relient cette fonction-là à l'Esprit de Dieu. Job 34, 14, « S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, en parlant de l'Éternel, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. » D'accord? Alors, ce rôle que Dieu joue de soutenir toute chose, de soutenir sa création, l'Esprit de Dieu joue un rôle au niveau de la vie, évidemment. Oui, c'est ça. Camille soulève la question. Lorsque Dieu a soufflé sur Adam, puis a donné son esprit, c'est juste que je n'avais pas le temps de vérifier des textes pour que ce ne soit pas ambigu avec le souffle. D'accord? Fait que j'avais un autre texte dans les psaumes aussi. Oui, c'est ça. On peut faire. C'est clair qu'il y a un lien biblique entre le souffle de Dieu et l'esprit de Dieu. Je n'avais pas le temps d'établir le lien puis que ce soit clair. Fait que j'ai préféré. Quand c'est pas clair, je préfère pas. Quand ce sera pas clair, je préfère pas m'avancer. Plutôt que juste semer de l'ambiguïté. Là. Alors, dans l'Ancien Testament, on voit que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie au sens propre, la vie humaine, d'accord? Lorsqu'on arrive, par exemple, déjà dans Jean, Jésus nous dit non seulement que l'Esprit donne la vie, mais c'est l'Esprit qui va donner la nouvelle vie aussi, d'accord? Alors, tout ce que je suis en train de souligner ici, là, c'est différents endroits dans les Écritures où on voit que chaque fois que Dieu donne la vie, l'Esprit est à l'œuvre. Alors, dans Jean 3, 6 à 8, vous connaissez le passage, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Alors, Dieu a créé par l'esprit la vie, et Dieu donne la nouvelle vie par l'esprit de Dieu. Évidemment, rappelons-nous, on n'aurait pas le réflexe d'y penser, que la vie même physique de Jésus est liée à l'esprit. N'est-ce pas? L'Esprit était là, c'est lui qui a conçu le corps de Christ physique, Jésus. Donc, dans cette création de cette vie-là aussi, l'Esprit est en train de jouer un rôle important. Ça, c'est fascinant. On n'aurait probablement pas fait le lien rapidement. Et puis, évidemment, bien, lorsqu'on va ressusciter, ça va être une œuvre de l'Esprit encore. Romains 8, 11. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Nous avons les arts de l'Esprit, les prémices, hein, l'espérance de la vie nouvelle, c'est l'Esprit qui habite en nous, qui nous dit un jour on va ressusciter. Mais ici, Paul nous dit que ça va être une œuvre de l'Esprit de nous ressusciter aussi. Donc, l'Esprit est intimement lié à la création de la vie. Que ce soit la vie première physique telle qu'on la voit, que ce soit la vie spirituelle, la vie nouvelle, que ce soit la résurrection des corps, l'Esprit Saint de Dieu est lié à la création de la vie constamment. Deuxièmement, il fortifie en vue du service. Alors, dans l'Ancien Testament, premièrement, là, j'ai donné une liste d'exemples. Il a équipé Josué pour le service en lui donnant de la sagesse. C'est clairement mentionné, c'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça. Il a équipé les juges pour qu'ils libèrent Israël de leurs ennemis. Alors, on a des mentions claires avec plusieurs des juges, Othniel, Gédéon, Jephté, Samson. On n'ira pas voir tous les passages, là. L'Esprit de Dieu s'est saisi de Saül et de David alors qu'ils servaient comme roi en Israël. Le Saint-Esprit a rempli Betsaléel pour qu'il soit apte à la réalisation des travaux pour la construction du tabernacle. Donc, dans tous ces cas-là, on voit que l'Esprit est là pour équiper pour le service. D'accord? Il prépare pour le service de Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, ça se fait par l'Esprit de Dieu. L'Esprit était au milieu de son peuple aussi pour lui donner la victoire contre ses adversaires. Ça, c'est intéressant. C'est dans les textes prophétiques ou souvent dans les textes prophétiques, souvent dans les prophètes, on a une espèce de fenêtre d'une perspective divine. D'accord? On lit les livres historiques, puis on a souvent le récit qui nous est donné comme à partir de la perspective terrestre. Là, des fois, on a des petits commentaires. Oups, OK, il y a quelque chose qui se passe. Mais lorsque tu vas lire les prophètes, puisque souvent c'est Dieu qui est en train de parler directement à travers les prophètes, c'est comme si on voit à travers ses lunettes à partir du ciel. Et donc, il nous est clairement fait mention dans Ésaïe que c'est parce que l'Esprit de Dieu était au milieu du peuple qu'ils avaient la victoire. Si Dieu avait retiré son esprit du milieu du peuple, il n'y aurait pas eu la victoire. L'Esprit de Dieu saisit les gens que Saül avait envoyés contre David. Ça, c'est particulier. Puis ils se mettent tous à prophétiser. Ils s'en vont pour saisir David. Ils croisent des prophètes. L'Esprit de Dieu vient sur les adversaires de David puis ils se mettent tous à prophétiser pendant des heures. Et donc, ils ne se rendent pas à ce qu'ils devaient faire. Puis on a quelques interventions comme ça dans l'Ancien Testament avec l'Esprit de Dieu qui contrecarre des plans. Oui. Oui. Vas-y.
Bon, l'Esprit Saint était sur David.
Oui. Okay.
Les autres, le peuple lui-même... Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'esprit?
OK.
Comment Dieu matchait? Comment il s'arrangeait Dieu avec ça?
Okay. Je ne sais pas si c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Bien, premièrement, je dirais que ça serait... En fait, je le disais comme ça un peu avant. Puis je pense que c'est pas tout à fait juste. L'Esprit de Dieu était au milieu du peuple d'Israël. Oui, je vais faire la nuance. L'Esprit de Dieu était au milieu du peuple d'Israël et quand le peuple d'Israël marchait avec Dieu, c'était par l'Esprit de Dieu qu'il le faisait. Il nous est clairement mentionné que l'Esprit de Dieu venait sur des personnes en particulier, des prophètes, des juges, des rois. Donc, c'est clair que lorsque Dieu avait une mission, c'est pour ça que je l'aborde sous l'angle du service. L'Esprit de Dieu équipe pour le service, il venait sur des personnes particulières. C'est clair aussi que les prophètes annoncent que sous la nouvelle alliance, l'Esprit va venir en nous, comme ça ne s'est pas vécu auparavant. Fait que ce que j'aurais tendance à te répondre, c'est que l'Esprit de Dieu était au milieu du peuple d'Israël. Et donc, ceux qui étaient en train de marcher avec l'Éternel le faisaient certainement par l'Esprit, ne faisaient pas par la chair. Je pense que ça serait faux d'aller jusque-là. C'est ça, mais il était au milieu du peuple. Donc, les autres... Tu veux dire les autres nations? Oui. Alors, ma réponse, c'est que l'Esprit était au milieu du peuple. Donc, s'il n'était pas d'une manière particulière sur chacune des personnes du peuple, comme il l'était sur le roi, il était au milieu du peuple et jouait son ministère, exerçait son rôle au milieu du peuple, il était en train de travailler aussi le peuple, il était en train de diriger. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on a aussi une question qui n'est pas simple. Par exemple, c'est à partir de la nouvelle naissance que l'Esprit-Saint vient habiter en nous. D'accord? Mais en même temps, clairement, Jésus dit « Nul ne vient au Père s'il ne l'attire à lui ». Mais pour que le Père attire un inconverti à lui, c'est parce que l'Esprit est déjà en train de faire une œuvre quelconque envers cette personne-là. D'accord? Fait que il faut pas que notre compréhension de la nouvelle naissance nous amène à limiter l'œuvre que l'Esprit peut faire avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Oui, mais c'est une excellente question. Je vais voir si on y revient un petit peu plus loin. Là. Vas-y.
Bon, Salomon. Oui. C'est la première fois en tant que chrétien que je pose la question. Je pense à ça, c'est un coup.
Okay.
Il a fait les problèmes, on sait. Tout le monde sait ce qu'il a fait des problèmes.
Oui, oui.
Mais malheureusement, à un moment donné, la fin de sa vie a dérapé au point de vue spirituel. Oui. Il y a eu bien des femmes, tout ça, des femmes étrangères.
Oui.
Est-ce qu'il a perdu la communion avec l'Esprit?
Je ne pense pas qu'on a un seul texte qui se prononce là-dessus. Mais je veux dire, oui, je comprends ta question. Par déduction, je te dirais oui. Clairement, oui. Mais je ne pense pas que... Moi, j'ai aucun texte qui me vient là à l'esprit. Oui. Mais j'ai pas de... Pensez-vous un passage qui prononcerait un jugement sur Salomon? Mm-hmm. Ouais. Bon, maintenant, par déduction, c'est clair que oui, Dieu ne reste pas là où le péché est vécu de manière continue. Oui, évidemment, on voit les fruits de ça dans sa vie, ça c'est très clair, mais je ne me souviens pas qu'il y ait un jugement par rapport à Salomon comme il y en a eu un par rapport à Saül, où Dieu retire son esprit de Saül, boum, là c'est clair. Non, je ne pense pas qu'il y ait de mention claire. Par déduction, on dirait oui. Je vais continuer à avancer. Je vais prendre d'autres questions un petit peu plus loin. Et puis, c'est ça. OK, je termine cette portion-là. Lorsqu'on parle d'équiper pour le service, bien, l'Ancien Testament annonce aussi qu'un jour, le Messie, le roi éternel, va venir et qu'il va être équipé pour le service aussi par l'Esprit de Dieu. Alors, dans Ésaïe 11, 2 et 3, j'avais un autre passage aussi que j'aurais pu mettre. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Alors, l'Ancien Testament, les prophètes, Ésaïe, avaient annoncé que lorsque le Messie viendrait, le roi éternel, l'Esprit de Dieu reposerait sur lui, comme il avait reposé sur David, mais d'une manière éternelle. D'accord? Donc ça, c'était annoncé. Des fois, on a des catégories dans notre théologie qui fait qu'on ne voit plus des choses dans les textes. D'accord? Alors, on a une catégorie pour Jésus. Jésus, c'est Dieu le Fils. Puis là, on peut passer à côté complètement du rôle de l'Esprit-Saint dans la vie de Jésus parce que c'est Dieu le Fils. Donc, on se dit, c'est Dieu le Fils. Il n'y a pas besoin de l'Esprit, c'est Dieu le Fils. Non, c'est pas ça que les Écritures disent du tout. Pas du tout. Donc, c'est juste intéressant de revoir ces choses-là, comme j'ai mentionné tantôt pour la conception de Jésus. L'Esprit donne la vie, l'Esprit a donné la vie à Jésus en tant qu'homme. D'accord? Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on est toujours dans la section « Il fortifie en vue du service ». L'œuvre vivifiante, là j'ai décidé de prendre carrément la citation de Grudem, puis je vais vous la lire, d'accord? Puis après ça, je la commenterai. L'œuvre vivifiante du Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, apparaît très clairement dans la façon dont il oint Jésus. C'est pour ça que j'ai pris toute la citation, c'est parce qu'il fait un beau travail pour nous montrer l'œuvre de l'Esprit dans la vie de Jésus. Et personnellement, là, c'est des choses que, dans le passé, j'ai facilement passé à côté de ça. Je le lisais, là, je l'entendais, mais je ne mesurais pas l'importance de ça. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus au moment de son baptême, évidemment, on le sait. Jean-Baptiste a déclaré « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. » Jésus était donc rempli de l'Esprit-Saint. Probablement, possiblement que dans vos catégories, vous ne seriez pas demandé « Est-ce que j'ai posé la question, est-ce que Jésus était rempli de l'Esprit? C'est le Fils de Dieu. » Non, non. Luc prend le temps de dire « Jésus était rempli de l'Esprit. » C'est par l'Esprit qu'il va faire plein de choses. Quand il a été conduit dans le désert pour y être tenté, et après sa tentation au début de son ministère, Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Quand Jésus est venu prêcher dans la synagogue de Nazareth, il a déclaré que la prophétie d'Ésaïe est accomplie dans sa personne. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. La puissance du Saint-Esprit dans la vie de Jésus s'est ensuite manifestée par des miracles. Et Luc prend le temps de spécifier que c'est par l'Esprit qu'il le fait. Le Saint-Esprit se plaisait à demeurer en Jésus et à le remplir de sa puissance, car il se réjouissait pleinement de la pureté morale de sa vie. Parlant de son ministère et de la bénédiction du Père sur ce ministère, Jésus dit, « Dieu lui donne... » Alors, Jésus parle du Fils de l'homme. Il dit, « Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Le Père aime le Fils et lui a donné plein pouvoir sur toutes choses. » Jésus bénéficiait d'une onction spirituelle sans aucune restriction et cette onction demeurait sur lui. De même, l'Esprit de Dieu équipa les disciples. Fait que là, après ça, on passe à l'autre partie, le ministère de l'Esprit envers les disciples. Oui, une question, Linda, juste une seconde.
Moi, j'ai... j'ai une question. Est-ce qu'on peut dire, parce que c'est des commentaires qui m'ont déjà été faits, que Jésus avait besoin d'être baptisé pour recevoir l'Esprit ou Jésus avait l'Esprit? Tu sais, souvent, on donne l'exemple, pour justifier le baptême.
De Jésus?
Le baptême ou notre baptême? Bien, on parle de catholique, là.
Ouais.
Pour justifier le baptême. Bien, gars, Jésus, lui aussi, avait besoin d'être baptisé.
OK.
Mais Jésus n'avait pas besoin d'être... C'est ça ma question. Jésus avait besoin d'être baptisé pour recevoir l'Esprit?
OK, c'est une bonne question. Jésus n'avait pas besoin de l'Esprit pour d'être baptisé pour être sauvé. Je pense que c'est la première réponse que je donnerais à une question catholique, là. Je pense qu'il était sauvé avant ça. Oui, je vais juste répondre à la question, Linda. Dieu a décidé d'associer le baptême d'eau, d'accord, avec le baptême de l'Esprit. Il a décidé de prendre cette image-là, qui était une pratique qui était déjà présente à l'époque. Dieu a décidé de prendre cette image-là pour illustrer notre mort avec Jésus-Christ et notre résurrection avec Christ, puis le moment où l'Esprit vient sur nous. Fait que ça, c'est par rapport au baptême. C'est un symbole. C'est clair que le signal pour Jésus du début de son ministère public, c'est le moment où l'Esprit de Dieu vient sur lui d'une manière spéciale. Cette onction-là, lorsque l'Esprit vient sur lui, c'est clair que c'est le début de son ministère public. Et je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens-là que ça va, et ça vient accomplir les prophéties. Maintenant, d'associer le baptême de Jésus-là avec le salut, c'est un petit peu... c'est assez tendancieux comme raisonnement, là. Dans le sens que je pense qu'il était sauvé, Jésus. Stéphane nous fait une plug pour son cours. Oui. Oui, mais ça, c'est après son baptême. Ça, c'est après son baptême, oui. Oui. Puis c'est dans une synagogue, il est en train d'enseigner. Fait que, oui, c'est ça, c'est après son baptême. Fait que c'est quoi ta réponse? Vas-y donc, Stéphane, arrête donc de nous faire... tu te souviens plus de tes notes, mais tu voulais faire une plug, c'est ça?
Non, voilà, je réétudie mon texte, mais il faut voir vraiment la divinité de Jésus depuis sa naissance pour réaliser qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, là, et que même Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et donc, il y a quand même certains textes là, qui nous amènent à sortir de cette impasse-là, de cette question, à savoir, ah, est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit à son baptême, lorsqu'on réalise que non, il y avait le Saint-Esprit bien avant. Et à 12 ans déjà dans le temple, il devait s'occuper des affaires de son père, etc. Oui, mais oui. Même au niveau de sa naissance, avec les mages qui viennent l'adorer et tout oui. Ça, et les prophéties. Donc, c'est là, je pense,
c'est qu'on ça. Peut sortir de la question. Je pense que la réponse se situe dans le fait que l'Esprit qui descend sur Jésus au moment de son baptême est lié à son ministère public. Puis ce ministère-là ne se fera pas par la chair, il va se faire par l'Esprit. Puis Dieu est en train d'accomplir des prophéties. Mais il faut aussi comprendre, je viens à ta question, il faut aussi comprendre l'idée que... là, j'ai pas un bon thème. Là. J'ai juste le mot paradigm en anglais, là. Un paradigme, c'est pas bon en... Oui, je sais, mais c'est pas ça que je veux dire. Jésus est le premier à vivre la résurrection physique, et il est le... Ce que Jésus vit dans son expérience ouvre la voie à ce que nous allons vivre. Et donc, Jésus est différent, puis en même temps, il est similaire, dans le sens qu'il est différent, parce qu'il est Dieu le Fils, c'est vrai, mais dans son expérience comme homme, il ouvre la voie au chemin que nous, on doit suivre. Nous sommes ses frères, puis on va passer par cette voie-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de Jésus, où il est en train de nous montrer, voici maintenant le chemin que vous allez prendre après. Puis, je l'ai mentionné, je pense, la semaine dernière, mais un des éléments qui m'a frappé dans l'exposé que Mark Driscoll a fait à Gospel Coalition, il a juste terminé sur ça à la fin. Il a dit, comment commence le livre des Actes? Le livre des Actes commence avec un ministère public qui commence de la même manière que le ministère public de Jésus commence, avec l'Esprit de Dieu qui vient sur ses disciples. Donc, il y a des choses qui se passent dans la vie de Jésus où Jésus est différent parce qu'il est Dieu le Fils, mais en même temps, il est le premier-né d'entre ses frères. Et nous, on est appelés à passer par ce chemin-là aussi. D'accord? Tu peux poser ta question, je vais voir si je peux y répondre un petit peu plus loin pour être sûr qu'on couvre la matière. Des fois, il en met pas mal sur le dos.
Oui, c'est que, bon, c'est pas par rapport à être...
Okay.
De ce matin, mais c'est par rapport à l'Esprit Saint quand même. Hein.
Okay.
C'est que dans Galates, tu as les œuvres de la chair versus l'esprit. Là.
Mm-hmm.
C'est que le mot chair semble un concept ignorant pour David. C'est chair versus esprit.
OK.
Question, est-ce que c'était inconnu pour David?
C'est une deuxième bonne question.
Oui, deuxième question, c'est quand il dit dans Paul que n'attristez pas le Saint-Esprit.
Oui.
C'est la deuxième question, ça?
Oui.
Est-ce que ce concept-là, c'est le même chose dans l'Ancien, parce qu'on ne parle pas, n'attristez pas Saint-Esprit, ce n'est pas mentionné comme tel dans l'Ancien.
OK, mais ça, je vais en parler un peu. Oui.
Tu comprends mes questions?
Oui. Ouais. La première question, j'espère qu'on va la couvrir dans l'anthropologie. OK? La deuxième question, non, je ne répondrai pas ce matin, parce que je n'aurai pas le temps de couvrir ma matière. Mais tu peux venir me voir après, par exemple. Puis la deuxième question, on va la voir un petit peu plus loin. On vient là-dessus. On parle de l'Ancien Testament, puis on parle du Nouveau Testament. C'est juste, je vais le couvrir quand on va arriver là. Ce ne sera pas long. Alors, au bas de la page 5, évidemment, on rentre dans le ministère de l'Esprit envers les disciples de Christ. Alors, Jésus leur annonce qu'ils vont recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, et qu'à partir de ce moment-là, ils vont être ses témoins. Au début du livre des Actes, dans les Actes, mais aussi j'aurais pu citer quelques textes dans les Épîtres, on voit que... L'Esprit de Dieu est là lorsqu'il y a une manifestation de puissance dans la prédication, dans l'accomplissement de miracles aussi. J'ai trouvé ça fascinant que Grudem relève le texte d'Apocalypse 22, 17. Moi, personnellement, je trouvais ça touchant. Dans Apocalypse 22, 17, ce que Grudem relève, c'est le fait que l'Église est en train de travailler avec l'Esprit pour pouvoir dire aux hommes de se repentir. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens » et que celui qui a soif « Vienne ». Et donc, dans toute notre œuvre de proclamation, ça va de soi. Ça va de soi, mais quel privilège, quelle grâce pour l'Église, l'épouse de Christ, d'œuvrer avec l'Esprit de Christ. D'accord? C'est vraiment un travail conjoint qu'on fait dans la proclamation. Là, on est comment dans la partie « Comment est-ce que l'Esprit équipe sous la nouvelle alliance ?» pour le service. Au sein de l'Église, l'Esprit distribue des dons spirituels aux chrétiens en vue du service de Dieu. Ces dons sont qualifiés par l'apôtre Paul de manifestation de l'Esprit. Tout à l'heure, lorsqu'on disait que l'Esprit est là pour manifester la présence de Dieu, quand les dons spirituels sont opérés dans l'Église, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester. 1 Corinthiens 12, 11, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Vous voyez encore la personnalité de l'Esprit? Le fait qu'il le fait selon sa volonté, comme lui le désire, il y a un... Si on voulait prendre le langage de la philosophie, il y a un libre arbitre, le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 7. « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, les dons que Dieu nous donne, ce sont des manifestations de l'Esprit de Dieu. Un autre aspect du ministère de l'Esprit envers le croyant se manifeste dans sa vie de prière. Lorsqu'on prie et qu'on ne sait pas comment prier, lorsqu'on on va dans la prière, puis on est comme, on est inquiet, on a un fardeau sur le cœur, c'est un fardeau qui est saint, qui nous vient de Dieu, on a à cœur le salut de quelqu'un, on a à cœur que Dieu rétablisse des choses, on a à cœur que Dieu bénisse son Église, on a à cœur nos enfants, peu importe, on a à cœur de régler un conflit, puis c'est lourd, on ne sait pas comment prier. L'Esprit de Dieu est là, lui sait comment prier. C'est les pensées de Dieu, hein, nous dit le psalmiste, sont tellement éloignées de nos pensées. C'est quoi la bonne chose à demander, Seigneur? C'est qu'il n'y ait plus de souffrance, c'est que tout soit réglé, ou c'est à travers la souffrance que tu vas ramener, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas comment prier. L'Esprit de Dieu est là, nous accompagne pendant nos prières. C'est le passage de Romains 8, 26. L'Esprit de Dieu purifie. Toute la sainteté de l'Esprit Saint, j'ai fait exprès pour répéter, est manifestée en ce que c'est lui qui nous lave et nous purifie, puis nous sanctifie et nous transforme. Alors, l'œuvre de régénération, de purification chez le croyant, c'est une œuvre de l'Esprit. 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. C'est l'Esprit qui vient faire cette œuvre de purification en nous, qui vient nous laver. On va voir un petit peu plus loin la sanctification, il y a deux volets à la sanctification. Après nous avoir lavés, l'Esprit produit en nous le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté. J'ai arrêté mon énumération, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient produire ça en nous. Cette paix-là. Puis pendant que j'étais en train de préparer les notes, avant-hier, je m'en allais sur la route avec Esther, puis justement après la soirée de Vendredi Saint, puis il était 11 heures. C'est tranquille, sa route. Il y a deux pompons qui arrivent, là, bien énervés. Ils arrivent de leur chiffre de travail à 6 heures le soir, il faut qu'ils aient souper. Il est 11 heures. Stressé, là, puis agressant. Là. C'était pas moi, je faisais ça regarder comme des véhicules qui étaient. Puis là, sur le coup, j'ai dit à Stan, tabou, le monde sont stressés, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est drôle, la deuxième pensée qui m'est venue, c'est généralement, je vis beaucoup plus de paix que ça. Et hier, en travaillant sur le cours, tout ça, je réfléchissais sur le fait que l'Esprit de Dieu produit ça en nous. Notre vision de la vie, notre vision des choses de la vie, notre vision des pressions de la vie est différente par l'Esprit qui agit en nous. Si on laisse l'Esprit nous parler, si on laisse l'Esprit nous conduire, on n'a pas à vivre les inquiétudes comme les gens du monde les vivent. J'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi. C'est différent parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et donc, ma perspective est différente, puis il fait une œuvre dans mon cœur. L'Esprit fait une œuvre dans mon cœur. C'est à la page 7. Le Saint-Esprit révèle. Alors évidemment, c'est un rôle important. Lorsqu'on couvre les Saintes Écritures, on voit beaucoup de ça. Alors j'ai juste un tout petit paragraphe. Les Saintes Écritures nous ont été données parce que des hommes ont parlé et ont écrit, poussés par l'Esprit de Dieu. L'Ancien Testament, tout comme le Nouveau, affirme tous deux être inspirés de Dieu, soit par les prophètes sur qui venait l'Esprit, ou encore les apôtres à qui le Seigneur avait promis que l'Esprit les conduirait dans la vérité. Mais il y a d'autres choses, il y a des chants qui sont chantés par l'Esprit. Alors, il y a vraiment différentes formes, mais c'est inspiré et poussé par l'Esprit Saint que ces choses-là se font. Deux, alors toujours dans l'idée que l'Esprit révèle, deux, il témoigne de la présence de Dieu. Ça fait partie de la révélation de Dieu, Dieu qui se révèle, il le fait en manifestant la présence de Dieu. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Il attire aussi fréquemment l'attention sur son œuvre et donne des témoignages reconnaissables de sa présence. Il semble, comme le souligne Grudem, qu'un aspect particulier de l'œuvre de l'Esprit sous la Nouvelle Alliance est de rendre perceptible la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Lorsque l'Église est réunie, lorsque Dieu est en train de faire des choses, ça semble être un des rôles de l'Esprit de rendre perceptible la présence de Dieu, de rendre l'invisible tangible à quelque part. Et des fois, on va le vivre lorsqu'on est en train de témoigner, des fois, on va le vivre dans un moment de prière, on va lire les Écritures, on va être en train de discuter. Tu sais qu'il y a de quoi qui se passe. Je l'ai vécu en évangélisant avec des gens qui étaient non-chrétiens. Une fois, j'ai eu une discussion, je suis rentré dans un appartement, je faisais Gibec, et puis je commençais, puis normalement, on ne doit jamais comme être tout seul lorsqu'on y va. Mon équipe était impair, c'était compliqué, fait que je me suis retrouvé tout seul. Puis là, je cognais une porte, tout ça, puis je rentre, je commence à jaser. Le gars, il m'invite à prendre un café. Puis là, à un moment donné, il y a un autre gars qui arrive dans l'appartement. J'ai déjà compté à l'église. Il y a un autre gars qui arrive dans l'appartement, puis je fais juste regarder le deuxième, puis je dis, je suis dans l'appartement de deux homosexuels, moi, là. Fait que je sais qu'à un moment donné, il y a des discussions qui vont changer. Puis je sentais que le deuxième qui est arrivé, il était pas mal plus agressif. Puis à un moment donné, il a commencé à me challenger. « Ouais, toi, t'es contre ça, la Bible est contre ça, Puis honnêtement, j'étais très cool. Puis j'exposais les Écritures, j'exposais la vérité, tout ça. Mais à un certain moment donné, il s'est passé quelque chose. Puis les deux ont fait un commentaire dans le sens de dire « Ouais, attends un petit peu, il y a quelque chose de spécial qui se passe ici, là. » Puis le deuxième, qui était plus agressif, n'a jamais changé de position. Mais il percevait qu'il y avait de quoi qui se passait, là. Je les ai laissés avec ça. Puis je les ai juste encouragés à chercher la face de Dieu. Fait que des fois, on va le vivre lorsqu'on est en train de témoigner. Des fois, il arrive des circonstances, même des inconvertis vont nous le dire. Et il semble que ça, c'est le rôle de l'Esprit. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit manifestait la présence de Dieu alors qu'il est descendu sur les 70 anciens qui ont commencé à prophétiser. Tout à l'heure, on a parlé des adversaires de David. L'Esprit est venu sur eux. Dieu manifeste sa présence. Plus tard, le Saint-Esprit a manifesté sa présence alors qu'il est venu sous la forme d'une colombe sur Jésus au moment de son baptême. De même, au moment de la Pentecôte, l'Esprit est descendu, s'est manifesté par un souffle violent et des langues de feu qui se sont posées sur les disciples. Dans la vie du croyant, nous percevons la présence de l'Esprit alors qu'il révèle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puis il nous amène à désirer une œuvre et une vie sainte suivant ses désirs, ses aspirations. Lorsque mon cœur est porté vers la sainteté, c'est une manifestation de la présence de Dieu en moi qui me donne cette puissance pour renoncer à des choses que normalement la chair aurait désiré autre chose. Mais l'Esprit de Dieu me pousse vers la sainteté, à marcher dans ses voies. Donc il témoigne de la présence de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu guide et dirige le peuple de Dieu. Au bas de la page 7, l'Écriture nous donne de nombreux exemples de personnes dirigées par le Saint-Esprit. Des fois, c'est extraordinaire. D'autres fois, c'est plus comme, ah oui, c'est comme ça qu'on le vit au quotidien. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que c'était, OK, ça c'est important. Ben, je trouve que Grudem fait un beau travail pour nous montrer que l'œuvre de l'Esprit dans le Nouveau Testament n'est pas si différente. C'est plutôt la mesure de l'œuvre de l'Esprit qui est différente. C'est le cœur nouveau qui nous est donné qui est différent. Mais en même temps, il y a beaucoup... chaque personne de la Trinité joue des rôles différents, puis le Saint-Esprit joue le même rôle depuis toujours. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Écoutez bien le commentaire de Grudem, là, c'est une citation. « Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que c'était un péché pour son peuple de contracter des alliances sans mon esprit, dans Ésaïe 30. Apparemment, le peuple avait pris des décisions en s'appuyant sur sa propre sagesse au lieu de rechercher la direction du Saint-Esprit avant de conclure des alliances. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour y être tenté par le diable. En fait, c'est la direction du Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit a été si forte que Marc dit que l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Donc, l'Esprit, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, est là pour nous donner une direction. Des fois, de manière surnaturelle et extraordinaire, bien, je dirais toujours de manière surnaturelle, mais d'autres fois, de manière plus subtile. On va le voir ensemble. Dans d'autres contextes, le Saint-Esprit a donné des instructions directes à certaines personnes, disant à Philippe, « Avance jusqu'à ce char. » C'est l'Esprit qui lui a dit. Ça, c'est de la direction. Tu sais, quand tu dis « J'ai été dirigé par l'Esprit », avance, c'est clair. OK, on avance. Ou disant à Pierre de partir avec trois hommes venus le voir de la part de Corneille. Ou encore demandant aux chrétiens d'Antioche, et on ne sait pas comment ça s'est passé, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Est-ce qu'ils ont entendu une voix? On n'a pas, c'est pas clair dans le texte. Mais c'est clair que c'est le rôle de l'Esprit de faire ça, de donner une direction. Là, lorsqu'on parle de direction, il y a des directions encore plus dramatiques que ça, ou plus drastiques. On a également plusieurs exemples où le Saint-Esprit a littéralement transporté une personne. Là, c'est de la téléportation par l'Esprit. D'un endroit à un autre. Alors, ça, il en a été ainsi quand l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. C'est l'Esprit qui l'enleva et pouf! Ça, c'est de la direction, ça, mes amis. Philippe se trouva à Ashdod. Dans ce cas, la direction aurait difficilement à être plus claire, en effet. Mais certains prophètes de l'Ancien Testament ont fait une expérience similaire, car ceux qui connaissaient Élie semblaient s'attendre à ce que l'Esprit de Dieu l'enlève et le transporte quelque part. Il cherche, puis il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être l'esprit qui l'a enlevé. Donc, ce n'était pas quelque chose d'étranger, cette idée que l'esprit pouvait venir prendre quelqu'un. C'était déjà là dans l'Ancien Testament. Certains pensent que... Je m'excuse. Je suis rendu un petit peu plus haut, un petit peu trop loin. Prochain paragraphe. Dans l'immense majorité des cas, la conduite du Saint-Esprit n'est pas aussi spectaculaire. L'Écriture parle plutôt d'être conduit jour après jour par le Saint-Esprit. Dans Romains, dans Galates, lorsque l'Esprit nous fait connaître les désirs de Dieu dans notre cœur, celui qui marche selon l'Esprit n'accomplit pas les œuvres de la chair. Alors l'Esprit de Dieu est en nous, nous donne de désirer une œuvre sainte, une œuvre bonne. C'est l'Esprit qui est en train de nous conduire. D'accord? Et de marcher selon l'Esprit. Je ne sais pas pourquoi j'ai répété deux fois les mêmes passages. Certains pensent que Paul ne fait référence ici qu'à l'obéissance aux commandements moraux. Ça, c'est bien important, d'accord? Écoutez bien le prochain commentaire. Certains pensent que Paul ne fait référence ici qu'à l'obéissance aux commandements moraux de l'Écriture. Mais cette interprétation semble peu probable, étant donné surtout que le contexte entier parle des émotions et des désirs que nous percevons d'une façon plus subjective, et que Paul met le fait d'être conduit par l'Esprit en contraste avec le fait de suivre les désirs de la chair ou de la nature pécheresse. C'est une tentation dans nos milieux de travailler uniquement avec la parole. Je l'ai dit la semaine dernière, Mark Driscoll a été assez provocateur quand il a dit, pour certains d'entre vous, la Sainte Trinité, c'est le Père, le Fils et la Bible. Et donc, c'est un piège ou une tentation pour nous de se dire, si je veux marcher selon Dieu aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est que je dois aller lire les Écritures, je vais apprendre les préceptes de Dieu, puis je vais appliquer les préceptes de Dieu dans ma vie. Un point, c'est tout. Non, l'Esprit de Dieu habite en moi, et je peux avoir des désirs qui sont selon la chair, mais l'Esprit de Dieu est en moi pour me donner des désirs qui sont selon l'Esprit. Et je dois apprendre à être attentif à ça. Je dois apprendre à marcher avec l'Esprit. Je vais vérifier, je vais éprouver, je vais valider ce qu'il y a dans mon cœur comme désir pour savoir si ça vient de Dieu à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu me permet de savoir que je ne suis pas en train d'errer dans mes aspirations, dans mes désirs, dans mes visions, dans ce que je voudrais faire, dans ce que j'ai comme projet. La parole de Dieu est fondamentale. C'est comme ça que je vais éprouver. Mais l'Esprit de Dieu habite en moi, il est là en moi, et le langage que Paul utilise ici, il parle de sentiments, de désirs. Il ne parle pas juste de principes. Donc, si quotidiennement, votre relation avec Dieu, puis votre manière de voir comment est-ce que je fais pour marcher avec Dieu aujourd'hui dans ma journée, si ça fonctionne juste avec des principes, il faut que je connaisse assez la Bible pour avoir les principes, il vous manque un gros, gros morceau, là. Parce que l'Esprit de Dieu est là en nous et nous donne des désirs qui sont selon Dieu. Maintenant, comme on va le voir, on peut attrister l'Esprit. On peut résister à ça. On peut refuser de suivre l'Esprit. D'accord? Et ça, c'est certainement la manière que l'Esprit de Dieu va nous conduire le plus généralement. Évidemment, un passage qu'on connaît généralement tous, il nous donne de l'assurance. Il donne ce dépôt dans notre cœur, cette conviction que nous sommes enfants de Dieu. Et même Jean va jusqu'à dire, nous savons que Dieu habite en nous à cause de son esprit. Alors non seulement je sais que je suis un enfant de Dieu, mais je sais que Dieu habite en moi. Il enseigne et illumine. En théologie, on parle généralement de révélation puis d'illumination. On prend ce langage-là dans les Écritures, lorsque Paul demande que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Alors, on va parler de révélation lorsqu'on parle de la parole de Dieu qui a été donnée, qui a été écrite. C'est une révélation. On va parler de révélation lorsque Christ apparaît à Paul. C'est une révélation de Dieu. Lorsqu'il y a des apparitions de Dieu, ce sont des révélations. Mais on va parler d'illumination lorsqu'on parle de l'œuvre de l'Esprit en nous pour nous aider à comprendre la parole de Dieu, pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Là, on va dire que Dieu vient éclairer les yeux de notre cœur pour nous donner l'intelligence pour comprendre ces choses-là. Et si vous avez lu les Écritures avec des non-chrétiens, vous leur avez fait lire des passages sur l'œuvre de Christ, puis vous voyez qu'ils comprennent comme l'équation mathématique qui est proposée, par exemple dans le salut. Mais tout ça ne fait aucun sens pour eux. Ce n'est pas important pour eux. Ils n'ont pas cette illumination du cœur. D'accord? Dieu n'a pas illuminé les yeux de leur cœur pour qu'ils saisissent la portée de ces choses-là. D'autres fois, c'est carrément dans leur intelligence. Vous parlez avec quelqu'un, puis tu sens qu'il a presque compris l'Évangile, mais il l'a pas tout à fait saisi encore. Puis au moment où Dieu fait cette intervention-là, c'est frappant. La personne saisit, puis des fois, on va terminer de prier, puis elle va dire, « Hey, je sais que je suis un enfant de Dieu. Je suis sûr, là, je peux mourir maintenant. » Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est une grâce. Quand on peut être témoin de ces choses-là. Donc, le Saint-Esprit, après nous avoir donné la parole de Dieu en inspirant des hommes dans sa rédaction, vient à présent illuminer notre intelligence afin que nous saisissions sa parole. D'accord? C'est une nuance qu'on fait qui nous aide à mieux comprendre aussi ce que Paul nous dit. Dans 1 Corinthiens 2:12, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Il ne suffit pas, par exemple, on a un beau ministère qui s'appelle le ministère des Gédéons, qui répand la parole de Dieu, ce qui est absolument extraordinaire, ça prend ça, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas juste donner des Bibles aux non-chrétiens, puis ils vont lire, et puis ils vont connaître les choses de Dieu. Non, ils vont connaître des choses sur Dieu, mais ils ne connaîtront pas les choses de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous faire connaître les choses de Dieu, qui vient nous faire connaître le sens, la portée, l'importance de ces choses-là. C'est lui qui vient nous convaincre. Ainsi, chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu pour lire et méditer dans les Saintes Écritures, je m'excuse, j'ai une petite faute ici, il est sage de demander que Dieu vienne nous éclairer par son Esprit afin que nous saisissions entièrement ce que Dieu désire nous montrer dans sa parole. Quand j'ouvre les Écritures, je veux que l'Esprit fasse une œuvre en moi. Je ne suis pas en train d'étudier un examen de mathématiques. Quoique c'est une bonne chose de prier avant d'étudier un examen de mathématiques, mais vous comprenez? Ce n'est pas la même affaire. Je veux que l'Esprit me parle de choses éternelles, de choses qui ont une portée éternelle. Je veux qu'il les applique à mon cœur. Et lorsque Dieu fait cette œuvre-là, vous le savez quand vous lisez les Écritures. Vous lisez les Écritures, ce n'est pas juste une question de comprendre le texte. C'est une question que ce texte-là est vrai pour vous maintenant. Vous comprenez comment l'Esprit veut l'appliquer dans votre vie. D'accord? Puis je ne parle pas là, de direction. Là. Je lis un passage, puis j'applique le texte complètement hors contexte, puis je dis « Ah, Dieu m'a parlé ce matin, il faut que je fasse ça. » C'est pas ça que je parle. Le texte est dans son contexte, mais je vois comment Dieu veut l'appliquer dans ma vie. J'ai une conviction que ces choses-là doivent être vraies dans ma vie. C'est une œuvre de l'Esprit, ça. Vous le vivez dans une prédication, lorsque Dieu est en train d'appliquer ce qui est apporté, ça dépasse le champ des émotions. D'accord? C'est pas le gars qui est en avant, qui vit quelque chose, puis là, vous êtes bouleversé comme on peut l'être en écoutant un bon film. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'une conviction intérieure qui dit « C'est Dieu qui est en train de me parler ce matin-là. » D'accord? Puis on s'entend que c'est subjectif. Il y a des gens qui sont très, très, très portés vers les émotions, puis le Saint-Esprit leur parle tout le temps. Probablement pas. Probablement pas. D'accord? Probablement qu'il y a des fois où c'est juste des émotions. Tu sais que c'est une œuvre de l'Esprit lorsque Dieu fait des choses. D'accord? Autrement, peut-être que l'Esprit t'a donné un sentiment de tristesse. Tu étais attristé par un péché dans ta vie, mais il n'y a pas de repentance. Si c'est l'Esprit qui t'avait donné la repentance, il va y avoir un changement qui va suivre ça. Il va y avoir une contrition qui va être là. Il va y avoir une quête de Dieu qui va être là. Mais on sait que l'Esprit est en train de faire cette œuvre-là dans nos cœurs lorsqu'il y a cette conviction qui vient de Dieu, une application de l'Esprit, du passage, de l'exhortation, peu importe. On peut le vivre dans des discussions, on peut le vivre dans des échanges. Des fois, je vais avoir des discussions avec un frère, avec une soeur, puis j'ai un super bon temps. C'était édifiant, c'était bien. Je ne pars pas de là avec un sentiment particulier que Dieu m'a parlé. Mais on a eu du bon temps, c'était super. On a eu un bon temps de communion fraternelle. D'autres fois, je pars d'une conversation puis je dis, « Wow, attends un peu, Seigneur, je pense qu'on a de la prière à faire ensemble. » Parce que Dieu m'a parlé, là. Dieu m'a bouleversé. Fait que lorsque j'étais à Gospel Coalition, j'ai écouté 7 prédicateurs. Je peux vous dire qu'il y en a qui me rejoignaient plus dans mon style, il y en a qui me rejoignaient moins dans mon style à moi. C'est comme, je tripais moins, c'était moins mon genre. Mais je peux vous dire qu'à travers tout ça, clairement, le Saint-Esprit m'a parlé une fois. Clairement. C'est clair, c'est l'Esprit qui est en train de me bouleverser. Je suis parti de là, j'étais bouleversé, je disais, « OK, Seigneur, j'ai des devoirs à faire. » C'est clair. Il faut que j'aille plonger dans ta parole, il faut que j'aille regarder ces questions-là. Cette prédication, là, j'étais si on peut dire ça comme ça, avec les meilleurs prédicateurs, des gens qui exposent la parole de Dieu, il y a pas, ils sont là, puis ils sont intègres, puis ils sont vrais. Une fois, j'ai dit, wow, le Saint-Esprit vient de me parler. D'accord? Puis je veux dire, j'ai vécu des émotions dans d'autres moments. Mike Bullmore, j'ai beaucoup aimé sa prédication. Ça m'a touché. Je ne peux pas dire que je suis parti de là, puis oh, le Saint-Esprit m'a parlé, là. C'est clair. D'accord? Alors moi, je vous invite à pas à rechercher ça d'une manière qui manquerait de sagesse, mais d'être sensible à l'œuvre que l'Esprit veut faire. Le Saint-Esprit est source d'unité. Évidemment, c'est, on le voit de différentes manières, d'accord? Je vais le résumer brièvement pour ça, mais le Saint-Esprit est celui qui nous donne l'unité. Le Saint-Esprit nous donne des dons qui servent à quoi? À se servir les uns les autres, à prendre soin les uns des autres. Le Saint-Esprit bâtit avec l'Église une maison spirituelle, pas des maisons spirituelles, une maison spirituelle. Et donc, le Saint-Esprit est là pour conserver l'unité au milieu de nous. Et au contraire, le genre de péché qui amène des divisions, comme les querelles et tout ça, ce sont justement des œuvres de la chair. Alors, lorsque je ne marche pas selon l'Esprit, je peux m'éloigner comme ça. D'accord? Je vais m'éloigner de l'Esprit, je vais perdre cette unité-là. C'est un des rôles de l'Esprit d'apporter cette unité au sein du corps de Christ. J'aurai le temps pour une question. C'est très courte, si c'est à choix de réponse, mais j'aurai le temps pour deux. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, c'est bon, on va terminer avec un mot de prière. Éternel mon Dieu, je veux t'adorer, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, on célèbre ton sacrifice et ta résurrection. Et Seigneur Jésus, c'est ce sacrifice qui a rendu mon cœur apte à recevoir l'Esprit. C'est ta mort, ton sang versé. C'est par ta mort et par ton sang versé que le pardon m'est accordé, que mon cœur est purifié et lavé. Et ça, c'est une œuvre de l'Esprit en moi, Seigneur. Seigneur, je veux reconnaître ce matin que trop souvent, Seigneur, trop souvent, nous ne sommes pas sensibles à l'œuvre de ton Esprit. Nous pouvons attrister ton Esprit. Nous tolérons des désirs charnels en nous, Seigneur, et nous attristons l'Esprit. Je te prie, Père, de nous aider à être sensibles, nous aider à prendre soin de cette communion intime que nous avons en nous-mêmes lorsque nous ouvrons la parole, quand nous servons tout au long de la journée, quand nous chantons des cantiques, Seigneur. Enseigne-nous à être sensibles à ce que l'Esprit de Dieu veut faire en nous. Père, j'aimerais te prier pour ceux et celles qui ce matin ont eu l'impression que je parlais un autre langage. Ils connaissent la croix, mais ils ne se rappellent plus ces temps où l'Esprit leur parlait. Et je sais, Seigneur, qu'il y en a. Je sais parce que j'ai passé par là, Seigneur. Ces moments où l'œuvre de l'Esprit dans mon cœur était comme la traversée d'un désert, de petits oasis en petits oasis. Mais ce fleuve d'eau vive qui déborde du cœur que Jésus a promis, combien de temps, Seigneur, est-ce que je n'ai pas vécu cela? Et ça a été quelques années vraiment horribles pour moi, Seigneur. Je veux te prier, Père, pour ceux ici ce matin qui vivent cela. Je te prie, Seigneur, de venir leur donner une profonde repentance. Je te prie de faire une œuvre par ton Esprit en eux, de leur donner une profonde repentance. De leur donner, Seigneur, de s'abandonner au pied de la croix. De te laisser reprendre la direction, de reconnaître ta seigneurie sur leur vie, Seigneur. Je te prie, Père, de les aider à mettre de côté les peurs, les craintes, parce qu'il y a des peurs à te laisser nous conduire. On a peur que tu nous convainques d'abandonner telle ou telle idole dans nos vies, Seigneur. Viens leur donner, Seigneur, la foi et la conviction de te faire confiance. Tu es si bon. Si bon, Seigneur, et que par ta grâce, nous puissions marcher chaque jour remplis de ton Esprit. En Jésus qu'on te prépare. Amen. Amen. Ça fait plaisir. On continue la semaine prochaine.